Nous le savons bien, les paraboles racontées par Jésus ont souvent quelque chose d'étrange. Et celle que nous venons d'entendre n'est pas seulement étrange, elle est même un peu choquante. Ce qui nous choque, c'est d'abord la malhonnêteté de ce gérant, qui est accusé d'avoir dilapidé les biens de son maître, conçoit un plan ingénieux pour surmonter les conséquences de la condamnation dont il fera coup sûr l'objet. Mais ce plan, par lequel le gérant compte assurer son avenir, est en réalité une nouvelle escroquerie. Le gérant projette en effet de faire signer au débiteur de son maître des faux en écriture, leur permettant de réduire le montant de leur dette. Mais il n'y a pas que la duplicité du gérant qui apparaît choquante. Ce qui est à proprement parler incompréhensible, c'est l'attitude adoptée par le maître à l'égard de celui qui n'a eu de cesse de le tromper. En effet, la parole se conclut par ce constat, et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce que celui-ci avait agi avec habileté. Et si nous nous scandalisons des propos tenus par la parabole, c'est bien parce que ces propos nous disent quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous attendons habituellement. Est-ce que nous n'attendons pas de Jésus qu'il se comporte comme un maître de morale, qu'il soit le porte-parole d'un Dieu qui serait le juste juge des actions des hommes? Or, à l'évidence, dans cette parabole, Jésus ne met l'accent ni sur la morale, il n'appelle pas à faire un usage honnête de l'argent. Et c'est bien pourquoi cette parabole, qui ne correspond pas tellement à ce que nous nous attendons à entendre, cette parabole nous oblige à changer de perspective. Le propos de Jésus ne se veut pas d'abord moral. Il y a face à Dieu, selon Jésus, plus important, plus décisif que la distinction entre les bonnes et les mauvaises actions telles que la morale les définit. À travers la parabole, donc, Jésus n'appelle pas d'abord à l'intégrité morale. Il n'appelle pas non plus à la malhonnêteté. Dans notre parabole, Jésus, si nous avons écouté le texte, ne justifie pas la malhonnêteté du gérant, mais il rend hommage à sa façon ingénieuse, avisée, dont celui-ci a su réagir. Et par cette manière, ce gérant a su se garantir un avenir. Cela précisément au moment où son avenir était compromis. C'est dire, et c'est là que la perspective change, c'est dire que par le biais de cette parabole, Jésus nous invite, nous qui l'écoutons aujourd'hui, à faire preuve du même esprit de décision que le gérant face à l'urgence de la situation, et employer aussi intelligemment que lui le sursis qui lui était accordé. Mais qu'est-ce à dire? Serions-nous, nous aussi, dans une situation d'urgence? Notre vie, notre avenir se jouerait-il, comme pour le gérant de la parabole, dans l'instant? Et puis, s'il en est ainsi, quelle est la décision que nous serions appelés à prendre maintenant? En réalité, la question qui nous est adressée, la question qui nous est posée, au moment où la parole de l'Évangile vient à nous, cette question qui exige une réponse, une décision qui engage notre vie, c'est de savoir si partageant la situation du gérant auquel son maître demande des comptes, nous allons saisir comme lui l'occasion d'être sauvés qui s'offre à nous. Car c'est là ce que veut dire cette étrange parabole. La décision, la seule décision qui compte, la seule décision qui nous est demandée, c'est la décision dans laquelle se joue notre vie et notre salut. Autrement dit, la seule décision qui compte, c'est la décision de la foi. Cette question de la foi, qui, comme l'écrit Paul aux Thessaloniciens, consiste à croire que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à posséder le salut. Voilà la question décisive, la question qui rend secondaire toutes les questions relatives aux bonnes et aux mauvaises actions morales. En effet, ce qui m'est demandé maintenant, ce n'est pas de m'évertuer à opérer la distinction entre bonnes et mauvaises actions d'un point de vue moral, mais bien de choisir entre Dieu et mes actions, quelles qu'elles soient. Est-ce que je vais faire dépendre ma vie de ce que je fais, ou bien est-ce que je vais accepter de m'abandonner à la grâce de Dieu ? Voilà la question qui nous est posée. L'Évangile nous appelle à la vraie foi, à la confiance du cœur qui va au seul vrai Dieu, qui reste attaché à lui. Et si notre cœur reste attaché au seul vrai Dieu et n'en cherche jamais un autre, si nous nous savons aimer de Dieu, alors nous deviendrons capables de bonnes actions. Nos actions seront bonnes parce qu'elles ne seront plus faussées par le désir, par exemple, de faire des œuvres méritoires, dignes de nous. Nous serons libres pour faire ce qui est nécessaire, ce que le prochain, ce que l'amour exige de nous. Et que ces œuvres soient dignes de respect ou non, qu'elles soient considérables ou insignifiantes, voire même qu'elles correspondent à la morale du temps ou non, cela importe peu. Encore une fois, dans la foi, la distinction entre bonnes et mauvaises œuvres ne s'effectue pas selon des critères moraux. Dans la foi, l'action bonne est celle qui plaît à Dieu et est mauvaise l'action qui nous éloigne de Dieu. Dans la foi, est mauvaise l'action qui sert à renforcer en nous le sentiment de notre propre puissance, de notre propre importance et qui nous fait oublier que seul compte l'attachement à Dieu. Autrement dit, dans la foi, les actions sont bonnes, non pas parce qu'elles correspondent à des normes morales, mais bien parce qu'elles sont accomplies dans un véritable esprit de service. Service de Dieu qui ouvre à un authentique service d'autrui. Et c'est ainsi que la foi nous permet de parler de l'argent, comme Jésus lui-même le fait lorsqu'il appelle ses disciples de façon énigmatique à se faire des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Dans la foi, nous apprenons qu'il est possible d'user de l'argent, non pas comme un outil de pouvoir, de domination, mais comme un instrument d'assistance. Au lieu de briser des liens, au lieu de diviser, l'argent peut être mis au service d'une vraie solidarité. C'est dire, et cela à la veille des élections nationales, que la certitude d'être aimé de Dieu, si elle nous ouvre un bon usage de l'argent, que cette certitude d'être aimé de Dieu peut également nous guider dans nos choix, dans nos engagements. La certitude d'être aimé de Dieu nous ouvre à une liberté critique à l'égard des programmes politiques qui nous sont proposés à profusion ces derniers jours, ces derniers temps. La certitude d'être aimé de Dieu nous invite à examiner ces programmes avec soin et à y déceler ce qui pourrait conduire à terme au démantèlement de la solidarité, à la marginalisation des plus vulnérables, à l'exclusion de celles et ceux qui sont différents. Et puis la certitude d'être aimé de Dieu nous permet aussi de voir dans ses programmes ce qui vise au contraire à renforcer un véritable service public, reconnaissant pleinement les droits de chacune et de chacun. Encore une fois, c'est la certitude d'être aimé de Dieu qui veut nous ouvrir à la liberté et nous rendre capables de percevoir ce qui témoigne en définitive d'une véritable attention à autrui. Et pour clore cette prédication qui m'a conduit sur des chemins que je n'aurais peut-être pas dû emprunter, j'aimerais citer une parole que j'ai découverte hier soir encore dans un ouvrage de l'écrivaine française Anne Berest, ouvrage intitulé « La carte postale ». Cette parole est dite par une femme à son mari, mais elle aurait pu être adressée par Jésus à celles et ceux qui l'invitent toujours et encore à se découvrir aimé de Dieu. Cette phrase est la suivante. Regarde comme la vie est douce quand tu arrêtes de t'inquiéter pour tout. Amen.